Radio Larzac vous présente dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses. Une série de pastilles sonores pour découvrir le musée, ses métiers, son fonctionnement et ses actualités. Le MUMIG, musée de Millau et des Grands Causses et site archéologique de la Grand-Fezinque, poursuit en 2026 son partenariat avec la chaire CNRS de professeur junior Habitabilité de la Terre et Transition Juste de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin autour des questions d'habitabilité. Dans le cadre de ce partenariat, trois journées d'études sont organisées pour inviter chercheurs et chercheuses, habitantes et habitants et passionnés à questionner les relations que nous entretenons avec les éléments terre, eau, air et feu dans les Grands Causses. Alors que de profondes mutations climatiques et écologiques bousculent aujourd'hui nos représentations et nos modes de vie, allant jusqu'à menacer l'habitabilité de la terre et de nos territoires, dans quelle mesure les collections muséales, comme celle du MUMIG, peuvent-elles aider à penser et à redéfinir les liens que nous entretenons avec les Grands Causses? C'est tout l'objet de ces journées d'études qui s'articulent autour de conférences et tables rondes le matin, des ateliers pratiques l'après-midi et des soirées grand public où les chercheurs et chercheuses sont invités à présenter de manière sensible et performative leur rapport aux éléments convoqués. Radio Larzac est partenaire du MUMIG sur ce projet pour enregistrer et diffuser une trace sonore des échanges et des réflexions qui ont émergé lors de ces trois journées. Nous vous proposons à l'écoute sur nos ondes et un podcast plusieurs enregistrements effectués pendant ces journées d'études. La première journée s'est déroulée le samedi 11 avril 2026 et tournée autour de l'eau et de la terre dans les Grands Causses. La journée s'est ouverte avec un mot d'introduction de François Lège, adjoint à la culture à la ville de Millau, de Katia Fersing, directrice du MUMIG, et Anne de Malray, éditrice et commissaire d'exposition.
Je voudrais vous accueillir en disant que le problème de l'eau sur l'ensemble de la ville est quelque chose de très important, et pour être modestement randonneur, il suffit de sillonner le Larzac et de sillonner les environs pour se rendre compte que depuis très très longtemps, depuis le néolithique, le problème de l'eau sur les Causses est un problème qui est fondamental pour l'habitat. Et donc, je suis très heureux qu'on puisse travailler sur cette question, puisque les collections du musée en particulier, que je connais bien, puisque j'ai été conservateur du musée pendant une quinzaine d'années, que ces problèmes ressortent à travers les collections de façon très incroyable, je dirais. Voilà. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'un musée, c'est un endroit où on montre des œuvres, c'est un endroit où on conserve, puisqu'il y a des conservateurs. Et puis, c'est troisièmement un endroit où on cherche et on essaye de comprendre à la fois les collections, à la fois leur rapport avec l'environnement de l'époque, si j'ose dire. Et je crois que les uns sont absolument indissociables des autres. Tous ces travaux doivent se tenir en parallèle. Et donc moi, à titre personnel, je suis très très heureux qu'aujourd'hui on puisse étudier et écouter des scientifiques. Voilà, mon passé d'universitaire fait que j'ai une passion pour cette recherche, et donc je suis très très heureux, et en mon nom propre et au nom de la ville, que ces colloques, puisqu'il y en a deux, hein, je crois, qui sont prévus, que ces deux colloques soient programmés cette année. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite la bienvenue et de bons travaux.
Merci. Merci, monsieur Lège. Alors moi, je vais lire un texte très court, mais parce que sinon, je n'arriverai pas sans avoir cet écrit. Alors, je suis profondément heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Certains le savent, j'ai vécu ces derniers mois une drôle d'épopée assez intense, au cours de laquelle j'ai rencontré un crabe véritablement irrévérencieux, sorti d'on ne sait où. Et c'est le genre d'épopée dont on ne revient pas indemne, vous vous en doutez, ni tout à fait la même. Et de cette rencontre avec la mort, ou plutôt avec la vie, devrais-je dire, je garde de profondes marques, le genre de marques qui font revoir l'ordre des priorités, le sens des choix et des actes aussi qu'on pose. Mais le genre de marques qui s'estompent aussi face à la clarté de ce qui nous tient en vie. Et je crois que parmi toutes ces choses infiniment précieuses qui me tiennent en vie, eh ben, il y a ces liens qui m'unissent au Grand Causse. Et oui, j'éprouve une puissante envie de sentir leurs eaux couler dans mes veines, leur terre nourrir mon regard et mon corps, leur air ventiler mon esprit et mes cheveux enfin revenus, leur feu maintenir cette furieuse joie de vivre en ces lieux. Et ça, eh ben, c'est mon autochtonie, en fait. Elle est charnelle, elle est intellectuelle, elle est spirituelle, elle est pleine et elle est totale. Voilà pourquoi j'ai eu à cœur, malgré cette mise en suspension longue et forcée au cours des derniers mois, de continuer à réfléchir sur nos façons d'habiter les Grands Causses à partir de l'endroit où je me trouve, c'est-à-dire un musée rempli d'objets, mais aussi à partir de cette expérience des lieux et des savoirs qui leur sont associés que je peux avoir aussi, et surtout entourée de celles et ceux qui cheminent entre ces questions à partir de l'endroit où eux-mêmes se trouvent. Donc ces objets y témoignent des relations longues aux Grands Causses. Les populations locales ont en effet tissé au fil du temps une pluralité de liens avec le milieu pour le rendre habitable, mobilisant les éléments de multiples façons. Elles ont fait preuve d'ingéniosité et de créativité, tout en s'adaptant à divers types de transitions, on va le voir. Et prenant appui sur l'histoire matérielle et immatérielle des relations aux Grands Causses, mais également sur nos pratiques, sur nos désirs et sur nos nécessités actuelles, le besoin s'est fait sentir d'ouvrir un espace d'échange et de discussion avec vous toutes et tous pour imaginer et reformuler collectivement nos liens aux éléments dans le temps présent. Les récits qui nous lient à eux et dont nous sommes les héritiers, qu'ils s'inscrivent dans le registre muséal scientifique ou économique, nous amènent en effet à les considérer en tant que ressources à conserver, à gérer ou à exploiter. Mais le contexte de mutation climatique et écologique que nous connaissons, avec ce contexte, donc, dans quelle mesure pouvons-nous imaginer d'autres façons de nous relier à eux ? Donc il s'agit en d'autres termes de veiller sur les Grands Causses aujourd'hui, autant qu'ils ont veillé et veillent sur nous, de prendre soin de ces liens de réciprocité qui font que je, que nous, que vous, j'espère en tout cas, qu'on se sent faire partie d'eux. Alors merci à chacun d'entre vous, professionnels, élus, artistes passionnés, de vous être mobilisés aujourd'hui pour venir penser et reformuler collectivement ces relations. Merci aux personnes impliquées dans l'organisation de ces rencontres, Élodie et Romain pour le MUMIG, Anne et Gaëla pour la Sorbonne, Malika pour la parole en légendée qu'elle va porter. Merci aux chercheurs engagés depuis leurs différentes disciplines, sciences dures et sciences humaines, sur les questions de terre et eau, puisque c'est de ces deux éléments dont il sera en particulier question ici, aujourd'hui. Le géologue Philippe Vernant, l'hydrogéologue Cédric Champollion, la sociologue Christelle Gramaglia de l'Université de Montpellier, tous les trois. Et bien entendu, l'anthropologue Nastassia Martin de la Sorbonne, avec qui nous cheminons et qui nous emmène dans le sillage de ces réflexions. Je précise pour finir, comme le disait François, que d'autres rencontres sont programmées en 2026 sous ce même format. Un format pour le moins expérimental, vous allez le voir, même si on démarre ce matin par une approche plutôt classique de ce que peut être un séminaire universitaire, mais vous êtes tous là pour plonger avec nous dans ces différentes approches. Et il y aura donc un rendez-vous le 9 mai autour de l'air avec l'anthropologue Gaëla Loiseau, le géographe Clément Barniodi et le néphologue Vincent Noël. Et très certainement le 3 octobre, mais on est encore en train de préciser la date, autour du feu. On vous donnera plus de précisions. Il faut vous inscrire, comme vous l'avez fait aujourd'hui, à ces ateliers et à ces rencontres à venir. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous une très belle journée d'études autour de la terre et l'eau dans les Grands Causses.
Bonjour à toutes et à tous. La première chose, c'est vraiment un sentiment de gratitude immense, à la fois pour notre amitié et cette collaboration qui dure depuis maintenant pas mal d'années. Je suis vraiment ravie d'être là, ravie de pouvoir sortir les problématiques de la chair, habitabilité de la terre et transition juste, de la Sorbonne et des mondes finalement assez clos, des mondes académiques assez clos dans lesquels on peut naviguer à Paris. C'était vraiment très très important pour moi de pouvoir aborder ces problématiques. Donc cette chaire, elle a 3 ans. Donc les 2 premières années, les séminaires se sont passés de manière très classique dans l'enceinte de la Sorbonne. Je détaillerai un petit peu après, là, dans une introduction plus structurer ce qu'on a pu faire pendant ces 2 premières années et aussi les enjeux théoriques et expérimentaux de la chaire. Mais là, en l'occurrence, pour cette dernière année, qui vraiment se centre sur... La question, elle est toute simple, en fait. C'est dans ce moment de crise écosystémique et de changement climatique, les grands flux géophysiques se lèvent, les puissances élémentaires se lèvent. Et la question, c'est comment on pluralise nos manières de s'y relier depuis diverses disciplines et aussi depuis diverses cosmopolitiques, parce que, évidemment, depuis le point de vue de l'anthropologie, on ne peut pas aborder ces questions uniquement depuis le prisme des sciences occidentales modernes. Et donc, traiter de ces questions dans les cénacles classiques de la Sorbonne à Paris, ça me paraissait un petit peu cavalier. Et donc, c'était vraiment important qu'on puisse venir sur ce territoire des Grands Causses, où, de fait, énormément de personnes sont traversées par ces questions et sont réflexives sur ces questions. Et c'est des choses qui... sont là dans leur quotidien. L'idée, c'est vraiment de dessiner quelque chose de collectif, de permettre d'ouvrir la possibilité de reformulation collective depuis nos différents endroits situés sur ces questions. Et aussi pour en finir un petit peu avec cette... enfin, en tout cas, essayer de fissurer cette manière très verticale, du haut vers le bas, qu'ont parfois les intellectuels, les chercheurs et les scientifiques, de produire des données et de les partager ensuite avec la société civile. Donc voilà, l'idée, c'est un petit peu de se mettre en friction avec ces modes de collecte et de restitution classiques. Voilà pour les deux mots.
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Je m'appelle Anne Demalleret et je suis éditrice et commissaire d'exposition. Et je travaille depuis de longues années à l'interface entre le monde de la recherche, celui des musées et je dirais le dehors de ces deux lieux aussi. Je voulais juste dire quelques mots sur le dispositif qu'on souhaite vous proposer, qui est, je pense que vous avez commencé à le comprendre, expérimental, qui est inédit aussi, mais qui s'appuie quand même sur la proposition de Bruno Latour, faite à l'occasion de l'écriture du livre « Où atterrir ?», et qui pose la question centrale du territoire, de la redéfinition nécessaire des territoires que l'on habite, non pas à partir des catégories politique classique du territoire, mais à partir de ce qu'il appelle les attachements étant, comme Katia l'a dit de manière très belle, ce à quoi on tient et ce qui nous fait tenir. Donc le dispositif qui en est sorti chez Latour et les gens qui l'ont accompagné prenait la forme d'une boussole, prenait aussi le temps de la redescription que nous n'avons pas cet après-midi. Néanmoins, ce qu'on veut garder de ça, c'est en le localisant sur élément après élément, donc aujourd'hui ce sera l'eau et la terre, de faire ce travail collectif de formulation de nos attachements. Et pour cela, ce qu'on propose, c'est de, Nastassia a parlé de friction, c'est de mettre en friction plusieurs régimes d'énonciation, celui des scientifiques qui sont là et qui nous accompagnent dans cette aventure expérimentale de la journée, celui des récits, des mythes dont on hérite, et celui de l'histoire matérielle des objets et qu'est-ce qu'elle nous raconte de ce dont on hérite. Ces régimes d'énonciation, ils sont rarement mis ensemble sur un plan d'égalité. Or, là, c'est ce qu'on vous propose, de prendre autant au sérieux les récits dont on hérite, qui sont considérés comme étant des légendes, donc fausses, et les données scientifiques qui sont considérées comme vraies. Et elles le sont, enfin, je veux dire. Voilà, je m'arrête là. Je m'arrête là, mais vous voyez l'expérience qu'on vous propose. Je vous souhaite une très bonne journée et à tout à l'heure.
Après cette introduction, Katia Fersing, directrice du MUMIG, et Malika Verlaguet, artiste conteuse en occitan, ont présenté des légendes des Grands Causses autour de la circulation et de la captation de l'eau, un lien avec des objets présents dans les collections du musée de Millau et des Grands Causses.
Alors voilà, avec Malika, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire avec vous aujourd'hui, en termes d'expérimentation, c'est qu'on va essayer de vous présenter des objets et des récits légendaires croisés. les uns avec les autres, parce qu'on considère qu'ils se font écho et qu'ils racontent quelque part un peu les mêmes choses aussi. Mais attention, ce n'est pas une présentation exhaustive des objets du musée, ni du légendaire Cossenard. C'est plutôt une invitation à voyager dans l'histoire longue de ce territoire, à travers une sélection d'artefacts et de récits. Alors, on va commencer par vous parler de l'eau, et l'eau en rapport aussi avec ce que présentera l'hydrogéologue Cédric Champollion, parce que ce corpus, il est aussi relié à ce que Cédric va raconter, et ce sont des choses qu'on remobilisera si vous en avez envie cet après-midi, mais il faut vraiment connecter la parole de Cédric avec ce qui va se passer juste après. Il faut savoir qu'ici, le territoire, les Grands Causses en tout cas, c'est un environnement qui est marin. Et qui a été marin, ou de bord de mer. Et ça, depuis 500 millions d'années. Jusqu'au Crétacé, il y a environ 65 millions d'années. Donc, il y avait beaucoup d'eau. Il y a 500 millions d'années, il y a une mer très profonde. Et nous, au musée, on a des spécimens assez extraordinaires, comme par exemple ce trilobite découvert dans les roches aux abords de la Montagne Noire. Lui, il a 500 millions d'années quand même. Donc, il provient de cette mer très profonde. On avait ensuite, un peu plus tard dans le cours du temps, il y a 300 millions d'années, 250 millions d'années. Oui, lui, c'est le trilobite.
J'ai commencé à faire n'importe quoi, vous voyez.
Ensuite, on va avoir des zones marécageuses de bord de mer et on va du coup trouver à cette période-là des empreintes de conifères, par exemple, comme on peut voir ici, ou des traces de pas de reptiles et d'amphibiens, comme on peut voir ici avec les contre-empreintes de l'Eriops. Et ensuite, un peu plus près de nous, dans le temps, mais il y a quand même autour de 200 millions d'années, 180 millions d'années, et un peu moins, une mer peu profonde qu'on appelle la mer tropicale d'Écosse. Et dans cette mer tropicale d'Écosse, il va y avoir la formation de dépôts marins alimentés par des sédiments qui proviennent de l'érosion des continents transportés par les fleuves. Et ces dépôts sédimentaires, ils vont devenir des roches calcaires, plus de marneuses. Elles vont constituer une couche de plus de 500 mètres d'épaisseur. Et elles vont se superposer avec les couches qui existaient déjà, issues des dépôts des périodes précédentes. Donc il y a une faune aquatique et dont on conserve plusieurs exemplaires, notamment le plésiosaure que vous voyez ici, qui est quand même la superstar de la collection paléontologie.
Occitanosaurus tournemirensis. C'est pas un virelangue, hein, c'est vraiment son nom, mais j'aime bien le dire parce qu'il y a occitan dedans. Et vous allez voir, je vais parler un peu occitan.
Donc l'Occitanosaurus tournemirensis et aussi énormément d'ammonites et beaucoup d'autres spécimens aquatiques qu'on montre dans nos collections. Bref. Après ces périodes-là marines, au Crétacé, la mer elle va continuer à aller et venir et puis ensuite elle va se retirer complètement. Mais tout ça pour vous dire qu'au départ, il y avait beaucoup d'eau dans les Grands Causses.
Oui, les légendes en parlent, notamment celle du rocher de l'Arche. C'est un rocher qu'il y a derrière le village de la Blaquière sur le Larzac. Alors ce rocher, il a une forme un peu plate et la légende dit qu'il y a très 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 longtemps, les hommes faisaient déjà n'importe quoi. Les collectages disent « C'est Dunabun à la Gurinorio ». C'est vous dire un peu l'ambiance. Et alors, à ce moment-là, le créateur a dit à un homme connu sous le nom de Noé, hein, je suis sûre que vous en avez un petit peu entendu parler, il lui a dit « Bon, il n'y a plus de los vostros cunorios », il parlait aux humains, et il a dit « Voilà ». Je vous dis ce qui est écrit dans le collectage. Bastiras un arco bello, perché baumanda un delubi, e faras munta un parel de tutto las bestio che sian salvados, e tutto las plantos que trubaras, et tu et ta famiglia. Donc déjà, on apprend que Dieu parlait occitan. On apprend aussi qu'il a prévu un déluge et qu'il demande à cet homme de bâtir une arche, la fameuse arche de Noé, qui elle est connue, mais le reste de la légende moins, parce qu'il lui a demandé aussi de ramasser toutes les plantes qu'il trouvait, en plus des paires d'animaux, et de faire monter sa famille avec lui. Hein ? Donc Noé, il avait aussi une femme, des enfants, mais ça, on en parle moins. Et Dieu a fait ce qu'il avait dit. Il a plu 40 jours. 40 nuages, c'est beaucoup. Bah, remarque, on l'a un peu vécu cet hiver. Hein. Mais bon, et l'eau est montée. Donc, ils ont été sauvés, hein, tout s'est bien passé. Et au moment où les eaux ont commencé à redescendre, là, l'arche de Noé est venue accoster sur ce rocher plat
et haut qu'il y a sur le Larzac, le fameux rocher de l'Arche. Et c'est pour ça que depuis, ce rocher s'appelle le rocher de l'Arche. Baqué.
Alors donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, voilà, c'est ce qu'on raconte de ce qui s'est passé. En tout cas, ces paysages et donc ce rocher de l'Arche, bon, les géologues diront que tout ça, ça s'est aussi formé sur une période assez récente. Enfin, c'est relatif assez récent, mais sur les 10 derniers millions d'années, on va dire. Et donc, tout ça, c'est le fruit, finalement, de l'érosion de l'eau. Qui a circulé sur ces couches qui se sont superposées au cours du temps et qu'on a décrites tout à l'heure. Et l'eau a sculpté ces paysages en les érodant, tout simplement, aussi, en même temps. Voilà. Et si on continue un petit peu pour avancer un peu plus dans le temps, l'eau, en fait, dans ces paysages, elle reste pas, elle disparaît, elle s'infiltre. Et donc, pour habiter sur les grands causses, eh bien, il a fallu faire preuve d'ingéniosité, évidemment, il a fallu inventer des procédés pour essayer de récupérer cette eau fuyante et pour la conserver. Donc, alors, ils sont allés chercher sous la terre, dans les grottes, où il y avait des gourdes, de l'eau qui était présente. Et donc, ces grottes, on les a d'ailleurs appelées les grottes citernes, et parfois à des dizaines de mètres de profondeur. Hein, donc ils ont parfois même aménagé ces grottes de manière à pouvoir aller y chercher l'eau. Et puis pour la stocker, ils ont fabriqué des récipients spécifiques et adaptés à leurs besoins, notamment des vases citernes. Donc on en a quelques exemplaires au musée et ici aussi. Et c'est un vase qui nous accompagnera d'ailleurs toute la journée. Ces grottes citernes, elles étaient encore fréquentées il y a peu par des bergers qui allaient y chercher de l'eau en passant quand ils en avaient besoin. Et puis, on raconte que les spéléos vont aussi parfois y boire quelques gorgées. Bon, les archéologues, ce qu'ils expliquent en tout cas, c'est que les premiers habitats cossonards, ils se situent dans les environnements proches de ces grottes citernes.
Moi, j'aimerais bien vous parler des fées de Vessac. Vessac, c'est sur le Cosse-Noir. Près de Vessac, il y a une sorte de petite grotte dans laquelle, dans le temps, il y avait des fées et il y avait aussi une réserve d'eau pour ces fées. C'était leur ravitaillement à nous. Et les habitants de Vessac disent que, d'un seul coup, il n'y a plus ni d'eau ni de fées. Alors, on ne sait pas si c'est les fées qui ont disparu en premier et qui ont fait que l'eau est partie, ou si l'eau est partie et de ce fait, les fées n'avaient plus d'eau à aller chercher dans cette grotte. Mais voilà, il se parle encore de ces fameuses fées de Vessac. Dinla Pichotobaumaki.
Il y a souvent des fées dans les grottes où il y a de l'eau, d'ailleurs. C'est, ou pas. Là, ça, c'est bon. Mais c'est vrai que les fées sont souvent là quand les grottes sont humides et propices à la collecte de l'eau. Alors du coup, après avoir occupé ces grottes citernes ou avoir occupé plutôt les environs de ces grottes citernes, on est allé habiter un peu plus loin. On a voulu essayer d'habiter partout sur le Cosse. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre en place des réserves d'eau dans des endroits propices à ça sur le Cosse. Et il n'y en a pas énormément. Donc, on a creusé des puits dans des petits vallons, par exemple, dans lesquels qui était favorable pour remplir les puits au bout des petits vallons, ou alors dans la dolomie du Bâtonnien qui, elle, favorise un système de drainage souterrain qui permet le remplissage de ces puits. Donc on a creusé des puits, on a aussi creusé des cupules qui sont des vasques naturelles mais surcreusées par l'homme. Et donc ces aménagements ont permis aux populations d'habiter un peu partout sur les cosses. Donc ça, c'est pas un puits néolithique qui date du néolithique, mais c'est un exemple depuis qu'on trouve à Montredon près de la Salvage. Après, il y a d'autres types de puits. Là, on ne le voit pas très bien. Il est vraiment très, très rempli, mais c'est un ancien puits romain. On le qualifie de puits romain. Il se situe sur le Cosse-Noir également, pas très loin de Montpellier-le-Vieux. Là, on le voit, il est plein d'eau. La photo, elle a été prise il y a un mois. Donc, il est rempli à ras-bord, mais sinon, c'est 4-5 mètres de profondeur. Il est aménagé. Il y a des petites marches qui permettent de descendre dans le puits. Voilà.
Et c'est là que moi, j'aimerais faire un petit point toponymie.
Quelle bonne idée, Malika.
Voilà, parce que les noms des lieux ici nous parlent aussi de notre rapport aux éléments. Et pour l'eau, il y a de nombreux noms de lieux. Quand vous trouvez Pou dans un nom de lieu, ça n'a rien à voir avec la petite bestiole, hein ? Ça, c'est le pézoul. Non, et le pou, ça vient de pousse en occitan, qui veut dire le puits. Donc, vous trouverez des endroits qui s'appellent le pou, comme près de la cavalerie, ou encore le puèche del pousse, près de Saint-Georges, ou encore le fameux puits de Calais à Millau. Ça, c'est d'après Jacques Astor. Hein, et...
Oui, ouais, voilà. L'éminent linguiste Jacques Astor. Donc il y a d'autres aménagements qui ont été réalisés par les habitants du lieu pour recueillir cette eau, encore une fois, parce que ça constituait l'enjeu premier. Par exemple, ici, des toits-citernes. C'est un exemple de construction vraiment spécifique qui permettait de recueillir donc, les eaux de pluie et qui alimentait une citerne qui se situe en dessous, qui a été creusée, de manière à avoir une réserve d'eau. On avait aussi autour des habitats des systèmes de gouttières qui permettaient de recueillir les eaux qui arrivaient, les eaux de pluie aussi, et qui ensuite descendait dans les citernes sous les bâtiments ou à proximité des bergeries, donc toujours des citernes adossées à des constructions pour les troupeaux ou les hommes.
Je voudrais faire un petit point actualité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette semaine, à Verrières, des artisans losiers-couvreurs ont bâti un toit-citerne. Et oui, ça se fait toujours. Ouais. Ils sont même passés à la télé sur France 3.
Oui, et justement... Malika, ça permet aussi de dire que le parc régional des Rancos, il fait un sacré boulot autour de la pierre sèche. Et il y a plusieurs projets comme ça qui sont menés, notamment autour de Verrières. Voilà. Donc il y a une vraie actualité de la pratique de la construction autour de la pierre.
Puis si vous voulez en parler, il y en a qui sont cachés dans la salle. Vous cherchez. C'est les plus bronzés avec la semaine qui vient de se passer. Ils ont pris des coups de soleil. Donc voilà, c'est tout.
Alors concernant l'élevage... Sur les plateaux, donc c'est l'élevage évidemment qui a pris le dessus en termes de possibilités en fait de développer des pratiques pour vivre sur l'Écosse, et donc on a cherché à construire des dispositifs, des équipements qui permettaient aux troupeaux de s'abreuver en eau. Donc ici on a des exemples de Lavogne. Donc de patrimoine bâti lié à la gestion de l'eau, la vagne, en fait c'est généralement des anciennes dolines ou alors elles sont situées au point le plus bas d'une ancienne vallée avec un dépôt d'argile qui a rendu imperméable la poche et donc qui se remplit d'eau. Donc ce sont des mares plus ou moins aménagées qui permettent aux troupeaux de boire sur le Cos. Et elles se situent souvent sur les itinéraires, sur les anciens itinéraires de transhumance ou sur les parcours de pâture.
Petit point toponymie. Donc, de nombreux noms de lieux se rapportent au Lavogne ou au Lavagne. Nous avons par exemple le puèche de la Lavagne près de la Couvertoirade, ou la Lavagne blanche et la Lavagne rouge sur la commune de la Roque-Sainte-Marguerite, ou encore Mar-Lavagne sur le Cosse Noir. Et j'aimerais enchaîner avec l'histoire du pouce de l'esclope. C'est sur quel cosse ça, le pouce de l'esclope?
C'est le Lévezou, là où tu vois,
voilà.
C'est un peu plus au nord.
Non, c'est pas vraiment un cos, tu vas me dire. Bon, c'est pas grave, c'est local quand même. Donc, le pouce de l'esclope, qu'est-ce qui se passe? Il y a une Lavogne et au printemps, les nuits de pleine lune, quand souffle le vent de Bise, c'est important d'avoir les trois éléments. À ce moment-là, les fadarelos, les fados, appelez-les comme vous voulez, c'est fait, et vous les imaginez comme vous voulez. Mais en tout cas, quand il y a les trois éléments réunis, elles viennent dans une lavogne, là, pour laver leur linge. Vous allez me dire, quand on voit l'état de l'eau de la lavogne à certains moments de l'année, on n'a pas envie d'y laver le linge. Mais peut-être qu'avant, c'était différent, ça bipasse. En tout cas, elles le font avec des battoirs à nord. Et donc, il y en a des témoignages comme ça de personnes qui ont entendu dire par une autre personne que de temps en temps, les parents levaient les enfants pour dire « Allez, ben, ils sont là qui ?» Et on les amenait là, près de la Lavogne. Et puis, il y avait tout de la végétation autour. Et entre le vent, la lumière de la lune et tout, ils voyaient les fées. Ils les voyaient, ils s'en souviennent encore.
Ouais. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ces histoires, en fait, le linge, il est toujours d'une blancheur immaculée à la fin. Hein.
Oui, même à votre passé dans la Lavogne.
Ouais. Bah, on raconte aussi que les femmes, elles allaient y laver le linge. Hein. Moi, j'ai entendu ça. Après, je ne sais pas dans quelle mesure
non, c'est pas, on le fait
elles
plus.
Y allaient vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que les lavognes, elles sont toujours largement utilisées aujourd'hui par les éleveurs. Donc, c'est un patrimoine qui est bien vivant et bien ancré dans le temps présent. Et comme tu le racontes, tu vois, avec ces histoires de fées, ce qu'on sent aussi derrière ce rapport à l'eau sur le Cos, qui est quand même, encore une fois, un enjeu crucial pour l'habitabilité de ces espaces, eh bien, il y a eu un rapport un peu sacré, est-ce qu'on peut le dire ?
On peut le dire.
On peut le dire, à l'eau. Et donc, par exemple, ici, sur... C'est aussi une lavogne, mais qui est bien moins aménagée et qui se situe du côté de La Salvage, sur le Larzac. D'ailleurs, La Salvage, vous savez que ça s'appelait Notre-Dame de la Citerne avant ?
Ouais,
parce qu'il y a une énorme citerne sous les bâtiments, qui est gigantesque. Et bon, en tout cas, il y a au-dessus de La Salvage le Mont Redon, et sur le Mont Redon, on trouve cette lavogne qui est assez extraordinaire. Quand vous êtes là-bas, il y a un truc qui a une énergie autour de ce lieu qui est assez... fabuleuse, en fait.
C'est à cause de la statuette, non ?
Eh bien, donc, ils ont trouvé, il y a des fouilles qui ont été réalisées il y a déjà quelques années dans les environs, là, juste derrière, et ils ont trouvé une statuette égyptienne de Isis donnant le sein à Horus. Bon, et donc, il y a eu quand même ici, qui date donc de l'Antiquité, il y a quand même eu ici des pratiques, un culte peut-être voué à l'eau, aux sources sacrées, à l'eau en tout cas, aux eaux divinisées. En tout cas, à cet endroit, il s'est passé quelque chose, ça c'est sûr. Bon.
Et on peut dire que quand même, la statuette, elle ne se trouve pas à Millau.
On peut le dire.
Et c'est peut-être dommage, elle est à Nîmes.
Ouais, comme beaucoup d'autres choses qui ne sont pas ici et qui devraient y être. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Les fées, elles traduisent aussi quelque part ce rapport sacré à ces eaux.
Ça me fait penser à...
Précieuse.
Bon, c'est un peu moins local, mais presque quand même dans le Tarn, il y a une grotte qui s'appelle Cabounès. Et là-bas, les fées les appellent les salvachos. Et ils mettent les animaux morts dans cette grotte... Enfin, ils mettaient, pardon. Les animaux morts dans cette grotte pour un peu s'attirer les bonnes grâces des fées. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas une bonne idée de mettre des animaux morts dans une grotte. Parce que, bon, vous allez peut-être le découvrir aujourd'hui, mais il y a quand même un rapport entre ce qui se passe dans le dedans et le dehors. Ouais. Et l'eau dehors, on la boit. Hein. D'ailleurs, Martel. Ah ben, on est coordonnées.
Si c'est Martel.
Non,
Martel,
c'est pas Martel, hein. Mais là, c'est pour parler de Martel. Bon, Martel.
En tout cas, c'est des photos qu'il a prises dans la veine à Armand, je pense, celui-là.
Ben, en tout cas, il a failli mourir parce qu'il a bu. Une source contaminée par une charogne qui avait un peu au-dessus. Pourtant, il l'avait vue, la charogne. Il l'avait vue dans la grotte, mais il n'a pas fait le lien tout de suite. Il a bu à la source, il a failli mourir. Et là, à partir de ce moment-là, il a dit « Calaresta descampa las bestios mortos din las baumos ».
Martel, il a dit ça en occitan.
Oui, c'est comme Dieu. Voyez, c'est
là,
tout ce qui est important, c'est en occitan.
T'exagères.
Et il a fait éditer une loi en 1902, la fameuse loi Martel, pour arrêter d'escamper les bêtes mortes dans les grottes.
Oui, et ça, là, c'est vrai, par contre.
Mais oui, ça, c'est vrai. Non, mais tout ce que je dis est vrai. Non, mais oh.
Ça va, je plaisante. Et donc Malika, ça te fait pas du coup moi cette histoire là quand même, j'ai envie que tu la racontes parce qu'elle est assez géniale, c'est cette histoire du petit berger.
Mais
parce que ils ont pas attendu Martel, les gens d'ici, pour comprendre qu'il y avait un lien entre le Cos et la vallée. Excuse-moi, mais
voilà.
Bon.
Alors on va vous parler du Cos Méjean. Sur le Cos Méjean, il y avait un petit berger, une passe-trou. Il avait 10-11 ans, pas plus, et comme beaucoup d'enfants à l'époque, il était loué pour garder les feds. Et comme tous les enfants, il gardait les fèdes, mais aussi il aimait bien explorer son territoire. Et puis un jour, il a découvert la veine de la Picouse. Pareil qu'il est gros, je l'ai jamais vu. Mais enfin, il y a un gros trou là. Et puis donc, il était en train de regarder comme ça, des fois, Escampabo de Peiros, pour entendre le bruit que faisait la pierre, si ça faisait plouf, si ça faisait tac. Enfin, les enfants, quoi. Et puis en regardant comme ça, il a fait tomber son fouet, sa courreggio. Un fouet de berger, c'est un bâton prolongé par une lanière de cuir. Je crois que ça servait un petit peu à diriger les brebis, mais ça, j'en ai pas vu beaucoup l'utiliser aujourd'hui. Vous l'utilisez sur le Larzac encore ? Plus. Hein. Bon, mais c'était des jolis objets ouvragés, vous voyez, on pouvait les reconnaître, c'était personnalisé. Et son fouet, il l'a fait tomber dans la veine. Et sa mère, elle était dans la vallée, un peu au-dessus de Flora, qui a une source qui s'appelle la Del Pecio, quelque chose comme ça. Et elle a vu arriver là une bastou, puis en fait, elle l'a pris, c'était pas un bâton, c'était le fouet de son fils. Alors, elle a cru qu'il était arrivé malheur à son pichou, elle est remontée sur le cosse, et là... Et là, elle l'a trouvé, non, tout allait bien. Et il lui a raconté la courage d'une labène. Et ils ont compris le lien entre ce trou là-haut et la source en bas. C'était un temps où parfois, on ne mangeait pas toujours à sa faim. Eh bien, ils se sont dit que de faire tomber une brebis dans la veine et de la récupérer en bas, ce n'était pas une mauvaise idée. Et que de toute façon, il y en avait une soixantaine là de brebis. Ça ne se verrait pas, une en des mailles, une en des minces, hein. Bérembé, ils se sont dit. Et ils ont convenu d'un jour où l'enfant pousserait un mouton là-haut pour le faire tomber dans la veine et la mère qui le récupérerait en bas, Percelo Mangia. Bon, sauf qu'en fait, il a choisi le plus gros des moutons là et puis c'est le mouton qui a poussé l'enfant et l'enfant est tombé dans la veine et en bas, la mère, au lieu de récupérer une eau fède, elle a récupéré son enfant, pas tellement bien vivant.
Et oui.
Ouais, non, mais c'est les légendes.
Pas,
hein,
ça finit pas toujours bien, c'est sûr.
On va pas changer la fin, c'est pas un Walt Disney non plus, quoi. Il dit est mort, est mort.
On avance. Alors, tu vois, du coup, les sources ici, il y en a énormément. On appelle ça des exurgences et pas des résurgences. C'est important, la nuance, il faut la faire. Et Philippe Vernant vous expliquera, ou Cédric Champollion, c'est quoi la différence. Ils ont pas l'air de trop savoir en plus. Ça va être sympa. Bon, en tout cas, moi, on m'a dit, c'est exurgence. Donc, ici, il y a beaucoup de sources aménagées au pied des falaises des différents cosses. Et la toponymie, évidemment, elle traduit cette importance accordée à ces sources aménagées. Donc, on a des fonds vives, des fonds garrelles, des fonds secs, des fonds majoux, des fonds longues. Elle, c'est fonds longues. C'est dans le ravin des Baumes, sur le Larzac. Fond blanc, fond rouge, fond fouillouse. Celle-là, c'est ta préférée, je crois.
Moi, j'aime bien fond fouillouse, je trouve que ça sonne bien. Et il y a la Fundelbauer aussi.
Il y a la Fundelbauer.
Ah, ben, ça, c'est dans la vallée de la Jonte. Il y avait une source là, dans laquelle régulièrement venaient se baigner les Fadarelles. Et puis, il y avait un homme qui vivait sur le Cosse Méjean et qui avait une fiancée sur le Cosse Noir. C'est pas tellement pratique. Caldabala, Calmunta, Calredabala, Remunta. Et un jour, qu'il passait près de la source des Fundelbauer, il a vu là trois fadarelles toutes nues en train de se baigner. Alors, voilà, magnifique spectacle. Sauf que les fées, elles n'aiment pas être vues. Alors, quand elles ont vu que l'homme les avait vues, elles lui ont dit de garder le secret et en échange, elles pourraient exaucer un de ses vœux. Et bien, lui, il leur a demandé de bâtir un pont entre le Cosse Méjean et le Cosse Noir. Alors, elles ont commencé à bâtir le pont, mais la condition, c'était de ne jamais être vue. Pourtant, c'était bien clair. Je veux dire, c'est... Eh bien, le type, il a tenu quelques jours, mais au bout d'un moment, il est venu les voir en train de travailler. Et le pont, qui était presque fini, eh bien, c'est juste putarlat. Ouais. C'est tout écroulé. D'ailleurs, je crois qu'on en trouve un peu des vestiges au fond. Et puis, surtout, les fées. Les fées, elles se sont changées en rochers. Il y a 13 quilios, aval. Les quilios de las fadarelos.
Et on les voit, hein, on les voit bien d'ailleurs. C'est un vrai problème, la traversée des cours d'eau dans nos régions, et ça a toujours été un vrai problème. Donc, on a essayé de trouver des solutions pour ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, par exemple, à l'Antiquité, à l'époque gauloise, les cours d'eau, ils étaient divinisés. C'était vraiment des rivières, des espaces sacrés qu'on ne franchissait pas comme ça, n'importe comment. Et justement, on pouvait franchir le Tarn, ici, à Millau, parce qu'il y avait une agglomération importante qui s'appelait Condato Magos, dont on voit ici un bout de quartier mis au jour par d'importantes fouilles tout au long du XXe siècle, enfin surtout à partir des années 1950. Et Condato Magos, c'était une agglomération gauloise de grande importance qui était située à la confluence du Tarn et de la Dourbie dans les marnes là, du Lias, donc c'est l'ancienne, c'est Millau. Ça, Condato Mag, ça voulait dire le marché du confluent. Des fouilles archéologiques ici à la Grosfezinque ont montré qu'il s'agissait d'un centre de pouvoir politique, économique et religieux gaulois de grande importance. Il y a des vestiges d'époque gauloise qui ont été mis au jour, notamment des vestiges de temples, et où l'eau occupe une place centrale, parce que je ne vais pas pouvoir tout raconter là, mais l'eau, en tout cas, elle occupe une place très importante. Il y a des sources aménagées, un puits cultuel à proximité des temples, entièrement bâti en pierre sèche, et qui atteignait une nappe phréatique de 4 à 5 mètres de profondeur. On a retrouvé des sources, des canaux, etc. Donc on pense qu'il y avait là un sanctuaire des eaux qui était dédié...
Aux Conones,
à des divinités gauloises. Donc un peu plus tard, quand il y a eu la conquête romaine, Condatomagos est devenu Condatomagus, toujours la ville du confluent, mais version romaine. Et au 1er et 2e siècle, on a assisté à l'émergence d'une proto-industrie autour de la fabrication de céramiques sigillées. Donc c'est de la vaisselle, là vous en voyez quelques exemplaires, de la vaisselle de semi-luxe qui était diffusée dans tout l'Empire romain, des céramiques lisses ou décorées, avec des motifs qui illustraient la culture romaine et qui étaient donc des vecteurs de romanisation d'une redoutable efficacité. Et Condatomagus est devenu le premier centre de production de céramique sigillée de tout l'Empire romain. Donc on avait là un centre de production très important. Et l'eau, là aussi, jouait un rôle prépondérant dans cette industrie, puisqu'elle était indispensable à la décantation et à la préparation de l'argile. Donc on utilisait les eaux de pluie, de la rivière, des sources, des nappes phréatiques. On a trouvé un long canal aussi qui longe les ateliers de potiers. Il y avait une citerne qui était alimentée par l'un des canaux. L'eau, elle servait à transporter les billes de bois qui étaient débitées sur l'Écosse et qui étaient ensuite acheminées jusqu'aux ateliers de potiers et au four.
Je peux dire quelque chose ?
Tout à l'heure,
j'ai envie de dire que quand même, la poterie, c'est la rencontre magique de l'eau et de la terre.
Oui.
Donc pour notre sujet du jour, c'est bien quand même.
C'est pas mal. C'est bien vu. Et donc, voilà, simplement vous dire que l'eau était vraiment au cœur de la production de céramique sigillée avec la terre. Donc. Et puis, la production, elle s'est peu à peu arrêtée. Et on ne sait pas exactement pourquoi tout s'est arrêté. Il y a eu un épuisement des ressources, peut-être. Il y a eu une baisse de qualité et une délocalisation des ateliers, ça c'est sûr. On n'est pas tout à fait au clair sur les raisons qui ont fait que la production s'est arrêtée comme ça. En tout cas, il y a eu là, de la part des populations, un effort à fournir pour rebondir et pour trouver d'autres façons de permettre l'habitabilité sur ce territoire. En tout cas, cette activité-là, elle ne pouvait plus perdurer. Voilà. De la même manière, juste pour terminer, l'eau des rivières, elle va être utilisée pour faire tourner les moulins qu'on trouve tout au long des cours d'eau, Tarn, Jonte et Dourbi, ou pour permettre des opérations de transformation de la peau. À partir de l'époque médiévale, on va avoir à Millau une activité mégissière très importante. Voilà. Ici, les quais Sully-Chaliès qui vous montrent... donc des pots et la rivière à côté. On avait des mégisseries qui étaient situées donc, sur les bords du Tarn. Des mégisseries, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, mais bon, ce sont un ensemble d'opérations qui permettent de transformer les pots d'agneaux issus donc, des élevages ovins du Cos, puisque l'agropastoralisme a permis d'avoir vraiment une production de lait importante pour la fabrication du roquefort. Et associé à cette production de lait, on avait beaucoup d'agneaux. Donc les agneaux, on utilisait la peau d'agneau pour fabriquer notamment des gants. Et c'était le travail des mégissiers que de transformer ces peaux d'agneau. Donc on avait une grande quantité de peaux qu'il fallait transformer. Donc les mégissiers, ils sont connus à Millau depuis le XIIe siècle et on les retrouve ensuite tout au long de l'histoire. En 1949, Millau est même la première ville de mégisserie en France. Et puis à partir des années 60, on va avoir un process de décadence de cette activité. Voilà. Mais l'eau servait à de multiples opérations, le trempage, le reverdissage, le rognage, l'enchaussonnage, le délainage, etc., etc. Je vais vite parce qu'on est déjà très en retard. Malika.
Moi, je dis plus rien.
Non.
Non, c'est bon. J'ai...
Voilà. Et puis, la situation s'est dégradée à partir des années 60. Une fois de plus, comme cela avait déjà été le cas par le passé, il a fallu penser la bascule d'un modèle économique vers un autre pour maintenir des conditions d'habitabilité dans les Grands Causses. L'agropastoralisme, lui, ne s'est pas éteint pour autant. Hein. C'est une activité qui est toujours phare sur le territoire et qui continue de nous permettre d'habiter ce territoire. Mais du côté, par exemple, de la cité Gantière, ici à Millau, on s'est plutôt tourné vers d'autres activités. Et là, je fais de gros raccourcis, hein, mais on a eu, avec la Société des loisirs et le développement des pratiques touristiques, une toute nouvelle économie fondée sur les sports de pleine nature. Et ce sont aussi des activités qui re-questionnent nos rapports aux éléments, terre et eau en particulier, et dont on a un peu discuté dans l'exposition Autochtonie au musée il y a 2 ans maintenant. Voilà. Nous pourrions terminer, n'est-ce pas Malika ?
Oui, tout à fait.
En disant que, qu'il s'agisse des objets du musée, de la toponymie ou des récits légendaires, à toi l'honneur.
Ah, je dis la jolie phrase. Ouais. L'eau occupe une place centrale dans notre écosystème, et ce depuis les premières occupations humaines. De la même manière qu'elle a façonné les paysages, elle a clairement façonné notre rapport au monde.
Nous amenant à faire culture commune à partir de fortes contraintes environnementales. On vous remercie.
On va les laisser sur ça, je sens que c'est bien.
Vous venez d'entendre la présentation d'un corpus de légendes et d'objets du musée de Millau et des Grands Causses par Katia Fersing, directrice du MUMIG, et Malika Verlaguet, artiste et conteuse en occitan, autour de la circulation et de la captation de l'eau dans les Grands Causses. C'était dans le cadre de la journée d'études de terre et d'eau qui s'est déroulée à Millau le samedi 11 avril en partenariat avec la chaire CNRS de professeurs juniors Habitabilité de la terre et transition juste de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chaire occupée par Nastasia Martin. Retrouvez prochainement sur Radio Larzac la présentation des prochains corpus, des conférences et des échanges qui se sont déroulés à cette occasion. Vous pouvez retrouver cet enregistrement et tous les autres en podcast sur radiolarzac.org. C'était, dans les coulisses du musée de Millau et des Grands Causses, une série de pastilles sonores réalisées par Radio Larzac en partenariat avec le MUMIG et le service culture de la ville de Millau. À retrouver en podcast sur radiolarzac.org.